France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info en simultané à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT et sur les applis France Info. Quatre thèmes d'actualité passés à la moulinette de nos quatre invités ce soir. Les informés s'appellent Virginie Leguet, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à Paris Match, chef adjoint du service politique. Hervé Gaucho est aussi avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au service économie et sociale de France Télévisions. Bonsoir Alexandre Devecchio.
Bonsoir.
Responsable du Figaro Vox et François Ernenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef du journal La Croix. Au sommaire ce soir, Emmanuel Macron rouvre le débat sur l'islam. Le président le dit dans le journal du dimanche, il veut aider la religion à se structurer en France et envisage peut-être, rien n'est tranché, d'aménager la loi sur la séparation des églises et de l'État. On reviendra aussi sur la balade corse du chef de l'État cette semaine, beaucoup d'espoir en amont, mais un simple projet de reconnaître la Corse dans la Constitution, loin, très loin des attentes des autonomistes qui durcissent le ton. La colère de Louis Gallois qui accuse le gouvernement de vouloir minorer le nombre de SDF. Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires est dans le viseur et du coup, ok, quelques jours, il a enfin retrouvé les bons chiffres et c'est notre faute apparemment, nous les Français, on n'avait pas compris ce qu'il voulait dire en parlant de 50 personnes qui dorment dans la rue en Ile-de-France. Et puis grâce aux Jeux d'hiver en Corée du Sud, le spectre d'un hiver nucléaire mondial s'éloigne. Le concours du plus gros bouton rouge n'étant pas encore un sport olympique, on est sauvé. C'est même un rapprochement qui semble se dessiner, simple parenthèse ou début d'une nouvelle page entre les deux Corées. Les informés, c'est parti, on est ensemble pour une heure de débat jusqu'à 21h. Il veut avancer touche par touche, mais en même temps, Emmanuel Macron veut aller vite, ça marche à peu près pour tous les sujets, mais aujourd'hui, c'est l'islam de France dont on parle, l'islam qu'Emmanuel Macron veut réorganiser, mieux structurer, il le dit dans le JDD ce matin, cette réforme sera menée dans les 6 mois qui viennent. L'idée directrice, aider les musulmans français à s'émanciper des influences et du financement de pays étrangers aux dogmes parfois rigoristes. Alors toutes les questions, dit le président, sont sur la table, ça reste à trancher. Est-ce que c'est le bon moment d'ouvrir le débat, François Ernenwein ?
On pourra discuter à l'infini de l'opportunité d'engager ce débat. Je pense qu'il intervient là parce qu'il sent qu'il y a dans la société française des tensions. Et la caractéristique de l'approche d'Emmanuel Macron, c'est qu'il accorde, on l'a vu à travers ses différentes interventions sur ces questions, une importance à la question religieuse. Et je pense que la volonté de mettre ça à l'agenda correspond à un souci d'avancer sur ce terrain. Il y a deux questions dans la question qu'il pose. Il y a la question de l'organisation de l'islam, ça c'est un débat. Et puis il y a une autre question, c'est les rapports de l'islam avec la société, la République en fait. Et cette question-là est un deuxième volet. Et c'est deux questions distinctes et il faudra les aborder, les traiter, je pense.
Sur le timing, Hervé Gaucho, c'est le moment d'ouvrir ce débat.
Oui, moi je trouve que c'est vrai qu'il y a des tensions, mais en même temps, on a vu quand même que malgré la période des attentats, la France était très résiliente. Les musulmans, mais aussi ceux qui ne le sont pas. On voyait bien que les attentats étaient quand même faits justement pour lever les Français les uns contre les autres. Et l'élection présidentielle et l'effondrement du Front National, pour ne pas le nommer, a bien montré que ça n'était pas le cas et que les Français avaient vraiment envie de vivre ensemble, musulmans, catholiques, juifs, protestants, peu importe. Et je trouve que maintenant qu'on a passé justement cette épreuve du feu, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, c'est peut-être effectivement le moment de se poser la question, alors peut-être pas à plat, pas de manière dépassionnée, parce que le débat est quand même très sensible, mais oui, c'est le bon moment avec ce nouveau président.
Pour aller dans votre sens, il y a un sondage IFOP aujourd'hui qui est intéressant, il montre que 56% des Français pensent que l'islam est compatible avec les valeurs de la société française, contre 43% qui pensent que non, et c'est exactement l'inverse que le même sondage 2 ans plus tôt, où là, on avait un résultat complètement opposé. 56% des Français pensaient alors que l'islam était incompatible avec les valeurs de la société française. Il y a une sorte d'apaisement. C'est le moment d'enfoncer le clou, Virginie Leguet.
Je ne sais pas s'il y a un apaisement, ni même si c'est le moment d'enfoncer le clou. En tout cas, c'est le moment qu'a choisi Emmanuel Macron. Et je rappelle qu'il en avait parlé lors des vœux aux autorités religieuses. Autrement dit, voilà, c'est inscrit à l'agenda. Il l'avait décidé en début d'année, c'est fait. Il se donne 6 mois. Je note l'incroyable prudence qu'il manifeste sur cette question, alors que pendant les 6 premiers mois de son quinquennat, on a vu à quel point il pouvait aller vite sur certains sujets économiques. Sur cette question-là, il avance vraiment à pas de loup, si je peux me permettre. Il dit... poser les jalons, il dit touche à touche, il dit je vais consulter beaucoup, il dit je vais prendre le temps.
Surtout j'ai rien décidé, c'est pas le cas des autres.
Je me donne 6 mois, je n'annoncerai rien tant que tout sera pas décidé. Il cite parmi les gens qu'il va consulter Gilles Kepel, et finalement pas beaucoup d'autres choses. Donc il y va vraiment très 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 sur la pointe des pieds. Je rejoins ce que vous disiez, vous parliez de l'organisation et du rapport de l'islam avec l'État, mais les deux questions sont liées. De l'organisation dépendra les rapports de l'islam avec l'État. Si l'islam de France est doté d'une organisation et d'une instance représentative qui sera identifiée peut-être plus clairement que l'est actuellement le CFCM, peut-être que les relations avec l'État seront facilitées.
Oui, sans doute, oui.
Alexandre Devecchio, qu'est-ce que vous retenez, vous, des pistes, en tout cas, qui ont été mises sur la table aujourd'hui ?
Je dirais qu'elles sont plutôt inquiétantes. Je crois que le président, il y a cette phrase quand même qu'on retiendra. La laïcité n'est pas un texte sacré. Ça vient après ses vœux où il parlait de radicalisation laïque. C'est quelqu'un qui, Emmanuel Macron, qui a plutôt une vision à l'anglo-saxonne, un peu communautariste, qui a consulté Gilles Kepel, mais aussi Hakim El Karoui, et qui est dans une vision très libérale des choses, qui pensent que les musulmans vont pouvoir s'organiser. Je suis beaucoup plus sceptique là-dessus. On a vu que depuis des années, le CFCM ne fonctionne pas. Je vois pas pourquoi un autre monsieur islam aujourd'hui serait plus représentatif. On voit que l'islam est quand même éparpillé en plusieurs chapelles. Et donc, je pense que ça va être extrêmement compliqué et que s'il y a quelque chose à réformer, c'est plutôt l'islam que la laïcité.
Et on va continuer ce débat dans quelques instants. D'abord à 20h10, toute l'info avec Noémie Bonin.
La fermeté, mot d'ordre d'Angela Merkel ce soir. Elle promet d'aller au bout de son prochain mandat de chancelière en Allemagne. Elle le dit dans une interview à la chaîne de télé publique ZDF pour contrer une fronde sans précédent dans son propre parti conservateur où beaucoup l'accusent de faire trop de concessions aux autres formations pour rester au pouvoir. L'opération séduction se poursuit pour Édouard Philippe aux Émirats Arabes Unis. À Dubaï aujourd'hui, le Premier ministre a une nouvelle fois vanté la transformation de la France, selon ses mots. Il souhaite plus d'investissements étrangers. Il a aussi supervisé la signature d'un accord entre Airbus et la compagnie aérienne Emirates sur l'achat de 20 avions A380. Le 15 de France a de quoi s'en mordre les doigts. Nouvelle défaite cet après-midi dans le tournoi destination de rugby face à l'Écosse, 32-26, alors que les Bleus ont mené pendant plus d'une heure. Prochain match contre l'Italie dans 2 semaines. En tennis, en revanche, les Bleus filant en demi-finale de Fed Cup. Les Françaises Kristina Mladenovic et Amandine Hess ont remporté le dernier point ce soir en double face à la Belgique en 3-7. Les tricolores rencontreront fin avril dans le dernier carré les États-Unis tenant du titre ou les Pays-Bas.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Car.
Emmanuel Macron veut donc structurer l'islam de France. Un débat qui va demander beaucoup de dialogue, beaucoup de sang-froid sans doute dans notre pays. Un débat que Marine Le Pen, elle, a quant à elle déjà tranché. La présidente du Front National était l'invitée du grand rendez-vous européen avec CNews et Les Échos tout à l'heure. Ces pistes de réforme sont inadmissibles, dit-elle.
C'est au culte de s'organiser, ça n'est pas à la République de le faire. La République française, elle doit faire une chose, exiger de l'intégralité des cultes que la Constitution française est une valeur supérieure à toute règle religieuse. C'est clair, c'est cela qu'il faut demander et obtenir. Et alors, peut-être, arrivera-t-on à limiter l'influence gigantesque.
Ce matin, Marine Le Pen, ce matin, ce qu'elle dit rencontre évidemment un certain écho aussi dans la société. Hervé Gauthier, on voit qu'elle réagit, qu'elle prend comme coin pour enfoncer le côté sur la loi de 1905.
Oui, mais parce que je crois qu'elle essaye de faire croire que les musulmans se pensent majoritairement au-dessus de la Constitution et iraient chercher des instructions ou une manière de vivre qui serait en dehors de la République. Il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même 3 à 6 millions de musulmans en France qui vivent très paisiblement, certains depuis de nombreuses générations et que ça pose aucun problème. C'est la deuxième religion de France. Je pense que la question qui se pose en fait par rapport à la relation entre les musulmans et la République, c'est comment vivons-nous ensemble. C'est vrai que la différence entre l'islam et les autres religions, c'est que on va dire que ils sont présents en tant que deuxième religion en France depuis plus récemment, et qu'effectivement il faut qu'ils trouvent leur marque par rapport à la loi de 1905. La question, par exemple, si on prend l'exemple des églises ou des mosquées, vous avez 45 000 églises en France qui sont pratiquement toutes financées, dont l'entretien est financé par l'État et par les collectivités. Pourquoi ? Parce qu'elles sont là depuis parfois des siècles et qu'elles font partie du patrimoine, ce qui n'est pas le cas des mosquées.
C'était là avant la loi de 1905, souvent.
Bah oui. Voilà, c'est
oui.
Ça.
Bah oui.
C'est ça la question.
Du coup, la question ne s'est pas posée. Pour les mosquées, qui sont 2500 en France, il faut le rappeler, elles sont là depuis de manière plus récente, et donc leur financement par l'État, évidemment, ne peut pas se faire, puisque là, la loi de 1905 doit s'appliquer. Aujourd'hui, les mosquées, elles sont financées à 80% par les dons et la quête, comme pour les catholiques à l'église.
Oui, c'est plus compliqué que ça. En réalité, on voit bien que en banlieue, la plupart des élus, l'écrasante majorité, ont détourné la loi de 1905 et créé des centres culturels qui sont en fait des lieux de culte. Ça, c'est une chose, plus les financements qui viennent de l'étranger. Donc, on peut pas dire effectivement que la loi de 1905 est respectée. Et il semblerait que Macron veuille la détricoter. Je crois pas que ce soit raisonnable. Je crois qu'il faut demander aux musulmans de respecter les lois de la République. Alors effectivement, la plupart le font, mais on sait qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes dans certaines mosquées, qu'il y a une tendance à la radicalisation. Et donc je pense qu'il faut être très clair et leur dire qu'en France, il y a un certain nombre de lois que tout le monde doit respecter, quelle que soit sa confession.
Oui, le danger, c'est quand même d'en faire une généralisation. Enfin, rien ne dit que ce que vous dites est une généralisation
en
France.
Pourquoi détricoter la loi de 1905 qui a fonctionné?
Mais là aussi,
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Qui dit exactement le contraire de ce que vous dites.
Et rien ne dit que c'est dans les intentions d'Emmanuel Macron.
En plus, oui.
Rien ne dit que c'est dans les intentions d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai lu attentivement ce qui a été écrit dans le JDD. En tout cas, ce qui est aujourd'hui à notre disposition à ce sujet-là, comme connaissance à propos de ce travail, rien ne dit que son intention est de détricoter la loi 1905.
Sur le fond, devant ces questions, on peut choisir, et certains le font allègrement, de jeter de l'huile sur le feu. Ce soir, on est là pour débattre des propositions d'Emmanuel Macron. Son intention est de pacifier le débat. Je vois pas au nom de quoi on critiquerait cette démarche apaisante. Et les Français, d'ailleurs, ont répondu, ça a été rappelé par V tout à l'heure, après les attentats, on a vu l'Église de France, les responsables politiques, contribuer à éviter que, par des réactions outrancières, la France se divise. Et l'unité nationale l'a emporté. Juifs, chrétiens, musulmans. Et ça me paraît être un moment très important dans l'histoire récente de la France, bien plus significatif que les arguties anti-musulmanes.
Virginie, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le Front National. Vous avez parlé de l'effondrement du Front National. Je serais beaucoup plus réservée que vous sur cet effondrement. Et ce que vient de dire Marine Le Pen, nous avons entendu ses propos là il y a quelques minutes, montre qu'elle a bien l'intention de souder son électorat, qui est peut-être, c'est vrai, absent des urnes depuis le deuxième tour de la présidentielle, puis les législatives, puis même là, les deux élections partielles qu'on a vues, les taux étaient, les scores du Front National et de son petit parti concurrent, les Patriotes, étaient extrêmement faibles. Mais cet électorat-là existe encore. Je dirais qu'il est dormant, qu'il est attentiste, qu'il attend de voir. Et Marine Le Pen a bien l'intention de s'emparer de cette question-là pour se ressouder son électorat. Je ne défends pas ses thèses. Je dis simplement que...
En tout cas, elle se fera entendre à ce moment-là, ça
non,
c'est
mais,
sûr.
Oui, mais sa sortie si véhémente d'aujourd'hui, quand elle a parlé de propos inadmissibles et intolérables, c'est exactement dans ce but politique-là. Et
bien
il n'est pas sûr qu'elle n'y arrive pas.
Mais regardons le paysage français. La thématique de la division ne mord pas. on a pris des exemples.
La thématique de la peur non plus ne marche plus. Finalement pas.
C'est
et le
fini.
Sondage
on
l'a bien
est
montré.
Passé dans une autre ère et tous les combats.
Puissiez-vous avoir raison.
Mais je le souhaite beaucoup que
moi aussi. Je ne crois pas
que la réalité des gens est changée dans les quartiers qui peuvent être confrontés à une forme.
Mais c'est précisément le sens des réformes proposées par Emmanuel Macron.
Je ne crois pas que les problèmes internes à l'islam aient disparu par un coup de baguette magique, par la magie d'Emmanuel.
Mais c'est pour ça
Emmanuel Macron. Et en Autriche, il se trouve qu'il y a eu une réforme un peu de ce type où on a laissé les cultes s'organiser. Le résultat est qu'aujourd'hui, l'extrême droite gouverne avec la droite en Autriche. Donc voilà, j'incite à la prudence et je crois que là, on me dit, rien ne prouve que c'est dans ses intentions. Il a quand même laissé entendre.
Je parle de ce qui est donné à notre connaissance aujourd'hui, rien ne dit ça.
Une évolution vers plus de multiculturalisme, il l'a clairement laissé entendre. Et je dis que ce type d'évolution est dangereuse et loin de pacifier les choses, risque d'accentuer la partition dans certains territoires, parce que je ne sais pas qui on va confler les clés du camion. Et voilà, et on risque d'avoir des endroits qui s'autonomisent et qui se communautarisent un peu plus.
Ça vous passionne en tout cas ce débat, François Arnenvall.
C'est passionnant, c'est un vrai sujet
passionnant. On a fêté il n'y a pas très longtemps les 100 ans de la loi de 1905. Il faut rappeler deux choses. Cette loi, elle a été considérée au fil du temps par les différentes confessions comme une loi d'équilibre. Et au moment de l'anniversaire, quand on interrogeait les différentes confessions, tout le monde disait « il ne faut pas y toucher ». Il ne faut pas y toucher, c'est une loi d'équilibre. Elle a connu d'ailleurs tout au long du XXe siècle des adaptations rendues nécessaires par la présence de nombreux musulmans, les carrés musulmans, etc., qui ont été des avancées, des compromis très utiles.
Elle s'est pas faite en un jour, cette...
Voilà. Bah, on est d'accord là-dessus.
Je voudrais faire une toute petite remarque
très
rapide sur la nécessaire organisation. Vous disiez les clés du camion. Il s'agit pas d'un camion, il s'agit pas de clés. Il s'agit d'organiser une religion. Je termine ma phrase, si vous m'y autorisez. Oui, mais non, mais c'est une image que je trouve un peu péjorative. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islam n'a pas de structure cléricale et qu'il lui en faut une. Si justement les relations avec l'État doivent s'organiser, se pacifier, il faut une structure. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, c'est peut-être si on va vers ça, ça ne peut être que le mieux.
On verra en tout cas dans les prochains mois. On verra dans les prochains mois. Merci Alexandre Devecchio.
Il faut bien commencer par structurer une religion.
Le CFCM n'a pas fonctionné et c'est l'UOIF.
On s'arrête là pour ce premier sujet.
Qui aujourd'hui tient une grande partie du
peut-être la nécessité de
réforme. C'est un débat qui vous passionne. Il nous reste encore plusieurs mois. Il nous reste plusieurs mois pour en parler puisque Emmanuel Macron a prévu ça dans 6 mois. Allez, on fait un nouveau point complet sur l'info à 20h20 avec Noémie Bonin.
Plus de 400 secouristes et enquêteurs vont poursuivre leur recherche toute la nuit en Russie après l'accident d'avion à la mi-journée près de Moscou, 71 morts. Selon les autorités, une boîte noire a été retrouvée et elles disent étudier toutes les hypothèses comme possible cause. Elles citent les conditions météo, l'erreur humaine ou un problème technique, mais sans mentionner la piste terroriste. L'expertise génétique pour identifier les victimes pourrait prendre 2 à 3 mois. Donald Trump n'est pas sûr qu'Israël cherche la paix avec les Palestiniens. C'est ce qu'affirme le président américain dans une interview publiée aujourd'hui par un quotidien israélien. Il précise que les relations israélo-américaines sont très bonnes, mais qu'un accord de paix avec les Palestiniens les rendrait encore meilleurs. Elle a mis plusieurs secondes à se rendre compte de son exploit. La jeune Perrine Laffont fait la fête ce soir aux Jeux Olympiques en Corée. La Française de 19 ans décroche l'or en ski de bosse. Le compteur tricolore est donc désormais ouvert. Demain, pour le garnir, on peut compter sur Tessa Worley en slalom géant ou sur Martin Fourcade, très décevant aujourd'hui en biathlon. Et puis en foot, Lille se donne un peu d'air dans le bas du classement de Ligue 1 grâce au match nul de ce soir à Nantes 2-2. Tout à l'heure, Strasbourg s'est bien repris en battant 3-1. Ce soir, Lyon reçoit Rennes. Coup d'envoi 21h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Carr.
Et les informés très en forme ce soir s'appellent Virginie Neuguet de Paris Match, Hervé Gauthier de France Télévisions, Alexandre Devecchio du Figaro, François Arnenvall de La Croix. Deuxième débat de cette soirée, ne rien lâcher sur les revendications des autonomistes, mais en même temps proposer de faire référence à la Corse dans la Constitution. La méthode Macron, ça marche Pas du tout, mais alors pas du tout, avec les indépendantistes de Lille. Ambiance glaciale entre Paris et les dirigeants corses après la visite du président la semaine dernière. Le parti indépendantiste de Jean-Guy Talamoni, Corsica Libera, dénonce carrément des discours haineux, provocateurs et méprisants d'Emmanuel Macron. Et les deux autonomistes, Jean-Guy Talamoni et Gilles Simeoni, étaient très déçus mercredi soir, juste après le discours du président.
Nous sommes consternés par le niveau des réponses qui sont données, qui sont loin d'être à la hauteur des enjeux historiques que connaît la Corse. Je crois que les Corses ont été humiliés par les réponses qui ont été données par le président Macron.
Nous considérons donc que c'est une occasion manquée.
Une occasion manquée, dit Gilles Simeoni. Hervé Gauthier, il a raté son coup, Emmanuel Macron, en Corse?
Ah non, je crois pas, non. On se demandait même, avec François, s'ils avaient pas consulté les sondages avant d'y aller, puisqu'apparemment, les sondages lui ont donné raison dans cette attitude de fermeté par rapport à la Corse. Non, je crois qu'il y est allé véritablement en disant, voilà, je suis le président de la République, je représente la République et je vais tenir un discours de la Corse dans la République. Donc effectivement, pas de statut fiscal, pas de langue corse officielle, pas d'amnistie, sans doute pas de rapprochement des prisonniers, mais quand même la reconnaissance du peuple corse dans la Constitution. Il y est allé pour tenir un discours de fermeté. Là où je pense que les autonomistes et indépendantistes ont été surpris, c'est que eux, ils ont fait tout ce chemin politique où ils ont renoncé quand même depuis 2014 à la lutte armée. Ils se sont engagés dans une voie politique. Ils ont, de fil en aiguille, réussi à gagner très largement les élections de décembre dernier avec presque 57% des voix. Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que finalement l'État, à travers le chef de l'État, fasse un geste, un pas vers eux. Et là-dessus, on va dire que le premier round, parce qu'il va y en avoir d'autres, on l'a bien compris, le premier round, ça a été un uppercut de la part du président de la République.
Même bilan, François Danvan, pour vous?
Oui, moi je pense qu'il aurait pu beaucoup mieux s'emballer ses refus. C'est-à-dire, quand il disait non à un certain nombre de revendications, Hervé a eu raison de rappeler tout à l'heure qu'en Corse, les nationalistes, les indépendantistes et les autonomistes ont fait des efforts pour pacifier la situation en Corse, pour essayer de trouver une solution politique. Donc, il aurait été, j'ose pas dire de bonne guerre, de bonne relation, que d'accompagner les refus argumentés du président de la République par un peu plus de douceur dans le propos.
C'était glacial l'ambiance, nous disait le JDD notamment ce matin. La délégation présidentielle se plaignait de même d'avoir pas eu un verre d'eau, etc. Virginie Le Guay, c'est compliqué les relations avec la Corse quand même.
Oui, c'est compliqué, mais je trouve qu'Emmanuel Macron, qui est arrivé en tant que président de la République, n'avait pas besoin de forcer le ton. Et il a forcé le ton et il a même utilisé, de mon point de vue, des formules vexatoires qui n'étaient pas forcément utiles quand il a comparé les attentats aux attentats terroristes, quand il a dit que le dossier Erignac ne se plaidait pas en face de Simeoni, qui est un ancien avocat de Colonna, quand il a utilisé ce ton un peu martial, un peu, je suis pas sûr que c'était bien utile. C'était un peu un concours de c'est moi le plus fort, c'est moi le plus important, c'est moi qui vais te montrer qui a raison et c'est moi qui vais te montrer qui aura le dernier mot. Certes, il a le dernier mot, il est président de la République. Quant à la concession qu'il a faite de dire on va inscrire l'exceptionnalité corse dans la Constitution, alors c'est pas fait du tout. C'est une concession qui, pour l'instant, n'est que de pure forme. Je rappelle qu'il faut que pour qu'elle soit faite, que le texte soit adopté en termes identiques par les deux chambres et que le Sénat, pour l'instant, s'y oppose. Donc là, on revient à la case départ. Il leur jette un os en sachant que cet os a peu de chances d'arriver à son but. Donc on est dans très peu de concessions et on est dans un discours dont franchement j'ai regretté la rudesse qui n'était pas utile.
Ouais, et s'il arrivait au bout, ce serait à mon avis une lourde concession puisque la République est une et indivisible. Donc là, ce serait voilà une exception à mon avis coûteuse et qui pourrait amener à des dérives. Cela dit, je suis d'accord avec Virginie. Moi, je pense qu'il fallait être très ferme face aux revendications des indépendantistes, mais avoir un discours qui semble comprendre le peuple corse, puisque les Corses ont, je pense, raison dans un contexte de mondialisation, dans un contexte où il y a des tensions en France, d'être attachés à leur spécificité. Et je crois que le vote nationaliste était un vote protectionniste. Et donc, il aurait fallu être subtil plutôt que de verser dans une rhétorique de l'ouverture et de la fermeture qui est assez voilà, qui est assez caricatural et à mon avis insupportable, et d'avoir l'air de comme ça de rééduquer les Corses. Bah, ils ont voté majoritairement pour les nationalistes. Ça s'appelle la démocratie. C'est toujours pareil. Après le Brexit, on nous explique que c'est pas bien, c'est le repli xénophobe, etc. Je trouve qu'il faudrait être subtil et s'interroger sur les causes de ce type de vote.
Les informés de France Info, on va marquer une courte pause. On revient dans moins de 5 minutes avec deux autres débats enflammés et d'actualité, c'est promis. On parlera des sans-abri que le gouvernement a bien du mal à comptabiliser sans se tromper. On se posera aussi la question de l'attitude de la Corée du Nord aux Jeux d'hiver de Pyeongchang. A tout de suite sur France Info, la météo et l'info de 20h30 arrive.
Info Trafic avec Antargaz, fournisseur de gaz naturel pour les entreprises, les professionnels et les collectivités. Plus d'infos sur gaznaturel.antargaz.fr.
Bonsoir Tanguy Bocconi.
Bonsoir Aurélien.
Des problèmes ce soir en Seine-Maritime.
Oui, avec un accident survenu sur la 28 en direction d'Abbeville et à hauteur de la rue Saint-Pierre, la voie de droite est neutralisée dans ce secteur. Dans le sud-ouest, la 61 est toujours ralentie de 10 minutes sur 5 km de la Bastide d'Anjou à Avignonet-Lauragais en direction de Toulouse. Sur la 89, attention aux pluies violentes de Abzac jusqu'à Bordeaux. Et puis le périphérique parisien est chargé au nord avec 10 minutes de ralentissement dans le sens intérieur entre Saint-Ouen et la Porte de la Chapelle.
Tanguy Bocconi en direct du PC Mobilité de Radio France, la météo.
France Info Météo avec VK, concepteur de fenêtres PVC, performantes et design pour tous vos projets de construction et de rénovation. VK, VEKA.fr.
Jean-Michel Golinski à Météo France.
Demain, après un début de journée souvent compris entre 0 et moins 3 degrés sur les deux tiers nord du pays, les valeurs de l'après-midi vont légèrement fléchir dans la partie sud, de l'ordre de 2 à 3 degrés de moins par rapport à aujourd'hui, mais rester stationnaire plus au nord et à l'est. Le ciel, quant à lui, va retrouver des couleurs sur la plupart des régions, sauf près des montagnes, où l'ambiance plus chargée va donner des flocons à partir de 300 mètres. Sur les autres régions, le soleil va souvent l'emporter. On notera un risque d'averse de la pointe bretonne aux côtes normandes, éventuellement mêlée de neige en début de journée. Autour de la Méditerranée, le vent turbulent à 80 km à l'heure va maintenir les nuages à l'écart, sauf à partir du début de l'après-midi du sud des Alpes à l'est varois, annonçant l'arrivée imminente de la neige.
Merci Jean-Michel Golinski, excellente soirée, il est 20h30 sur France Info.
France Info. Deux points, ouvrez l'info.
Augustin, arrivé pour l'info.
Décidément, pas de sursaut pour les rugbymen français. Nouvelle défaite cet après-midi dans le tournoi des Six Nations. L'Écosse s'impose 32-26. Guilhem Guirado, le capitaine des Bleus, est d'autant plus déçu que le match avait bien démarré.
On s'est arrêté un peu de jouer. Je crois qu'on a eu une seule séquence où on a réussi à jouer dans les 22 mètres. On les a mis à mal. Après, sinon, ça a été assez stérile. On a joué toujours dans la même zone, un petit peu des 40 au 40. Et ça nous a fait défaut parce qu'on a manqué de maîtrise. C'est pire que la semaine dernière, je crois. Tant qu'on n'aura pas la discipline, on ne pourra pas gagner le match. Hein. Donc discipline, ça veut dire patience, confiance et surtout jouer avec la règle. Il faut absolument qu'on change sur la suite du tournoi, sinon on n'y arrivera pas.
Guilhem Guirado, le capitaine de l'équipe de France de rugby. Prochaine rencontre, dans deux semaines, ce sera face à l'Italie. Le football, 25e journée de Ligue 1. Victoire strasbourgeoise face à 3, 2-1. Lille arrache l'égalisation à Nantes de partout. À 21h, ce sera le coup d'envoi de Lyon-Rennes. Les Jeux Olympiques d'hiver, Perrine Laffont, championne olympique de ski de boss. C'est la première médaille française en Corée du Sud. Et puis la Fed Cup avec la France qualifiée pour les demi-finales aux dépens de la Belgique. Ça s'est terminé dans le troisième set du cinquième match. C'est du tennis. Julien Denormandie assure qu'il ne minimise pas les statistiques sur les sans-abri. Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, il revient sur les chiffres qu'il annonçait cette semaine. Cette cinquantaine de personnes dormant dehors à Paris, selon lui. Le SAMU social en annonce 2 à 3000. Julien Denormandie explique qu'il voulait parler des personnes qui appellent le SAMU social mais ne trouvent pas de toit faute de place. Le parquet d'Ajaccio ouvre une enquête contre X. Au cœur des interrogations, il y a un message images postées depuis un compte Facebook attribué au nationaliste Charles Pierry, l'ancien chef du FLNC, message d'injure qui vise la veuve du préfet Claude Erignac. Le texte est resté publié sur le réseau social pendant 3 jours. L'avocat de Cécile Bourgeon annonce son intention de se pourvoir en cassation. La mère de la petite Fiona, reconnue la nuit dernière coupable de coups mortels sur sa fille. Les faits remontent à 2013. Son ancien compagnon écope comme elle de 20 ans de réclusion criminelle. Le Premier ministre Édouard Philippe rentre des Émirats Arabes Unis avec un contrat dans ses valises. La compagnie aérienne Emirates confirme l'achat de 20 Airbus A380. Le gros porteur était menacé. Ça fait donc un peu d'air pour l'avionneur européen. Aucun survivant dans les débris de l'avion de ligne à Stepanovskoïe. On est près de Moscou. Un Antonov qui venait de décoller de la capitale russe s'est écrasé là à la mi-journée. 71 morts. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée. Une première boîte noire a été retrouvée. L'appareil se rendait à Orsk, une ville de l'Oural près du Kazakhstan. À 20h33 sur France Info, la suite des informés arrive. C'est toujours en compagnie d'Aurélien Accard.
Les informés, Aurélien Accard.
Les informés de France Info, deuxième partie ce soir avec Virginie Leguet de Paris Match, Hervé Gauthier de France Télévisions, Alexandre Devecchio, Le Figaro Vox et François Hernenwein du journal La Croix. Juste avant l'info, on parlait de la visite d'Emmanuel Macron en Corse. Emmanuel Macron qui a peut-être un peu vexé les autonomistes corses, Virginie Leguet.
Oui, alors je voulais équilibrer mon propos et dire que les nationalistes n'avaient pas été en reste de provocation et que la manifestation qu'ils avaient organisée avant l'arrivée d'Emmanuel Macron en Corse n'était peut-être pas du meilleur effet, était peut-être aussi une façon de provoquer la susceptibilité du chef de l'État.
Vous avez eu un coup de fil pendant la pause ?
Non. Je vous rappelle que je voulais parler avant même la pause.
C'est vrai, il faut bien que je le dise.
Et que dans cette manifestation était également présent Charles Péril. Là non plus, c'était peut-être pas du plus adroit de leur part à tous de montrer que voilà. Bon, donc, à provocation d'un côté, ont répondu des provocations de l'autre aussi probablement.
Et Hervé Gauthier.
Oui, on sentait bien que de toute façon, effectivement, ce rendez-vous allait être sous tension, puisque choisir effectivement la date symbolique du 20e anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac, venir avec Jean-Pierre Chevènement, qui était le ministre de l'Intérieur, qui avait été tant détesté justement par les autonomistes et les indépendantistes corses, de toute façon, Emmanuel Macron voulait aller leur dire que tout n'était pas soldé et que l'époque de la lutte armée n'était pas complètement soldée et qu'il continuait de porter ça quand même.
François Danvalien, encore un mot sur la Corse ?
Enfin, personne ne m'a téléphoné d'Ajaccio, mais
mais
je
plus,
tiens,
personne ne me croit,
je tiens
plus.
À dire que l'erreur qu'il a sans doute commise, c'est d'avoir voulu, dans une dynamique de puissance, de pousser son avantage, alors qu'il sait très bien que les Corses ont souffert des violences, se sont parfois entretués pendant les années sombres, et qu'aujourd'hui, l'hypothèse d'un retour à la violence est une hypothèse très improbable du point de vue des Corses. Aucun Corse, je crois, ne désire revivre les années de plomb qu'ils ont vécues.
Alexandre Devecchio, un dernier mot ou
Moi, je n'ai pas changé d'avis à la pause, mais
quand personne n'a changé d'avis.
Quand il s'adresse, en fait, moi, je pense qu'il s'adressait au nationalisme et qu'il s'adressait aux Corses et qu'il a un peu oublié, justement, les Corses, il n'avait pas besoin de bomber le torse. Il aurait dû leur rappeler que la République et la Corse avaient une longue histoire et être fédérateurs un peu au-dessus de la mêlée.
Allez,
On passe au troisième thème des informés ce soir. Oui. Le gouvernement cherche-t-il à minimiser le nombre de personnes qui sont à la rue en France, ces gens dont on semble se souvenir quand le thermomètre passe dans le négatif. Emmanuel Macron avait promis pendant la campagne plus personne dans la rue d'ici la fin de l'année 2017, c'est raté. Et le gouvernement semble, disons, au mieux approximatif sur cette question, au pire complètement à la rue. Le secrétaire d'État Julien de Normandie s'est pris les pieds dans le tapis, c'était il y a 10 jours sur France Inter.
Il y a combien de gens qui ont dormi dehors cette nuit ? Vous le savez, ça ?
Les chiffres que nous avons, c'est à peu près une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France, pour être très précis.
Ah, pour être très précis, ce qui a fait bondir jusqu'à Louis Gallois ce matin, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, lui, y voit une volonté politique de minorer le nombre de SDF. Du coup, Julien de Normandie lui a répondu sur RTL tout à l'heure. En fait, on n'avait pas compris.
Quand on m'interroge sur une radio il y a 10 jours sur ce sujet, je parle de quelque chose de très précis, et je m'en veux si mes propos n'ont pas été assez explicites. Je parle du nombre de personnes qui appellent le SAMU social de Paris en fin de journée et à qui on dit, malgré votre demande, nous ne sommes pas en capacité de vous offrir un hébergement.
Donc vous restez sur 50.
Et ça, le chiffre que je donne à l'époque correspond précisément à ça.
Ça ne prend pas en compte tous ceux qui n'appellent pas.
Oui. Ce sont des chiffres qui nous remontent des préfectures et des associations qui le gèrent. Ce chiffre, évidemment, ne correspond pas au nombre de personnes qui dorment dans la rue.
Alors, bourde, rétropédalage ou remise en contexte, je vous laisse juge. Louis Gallois, a-t-il raison d'accuser le gouvernement de vouloir minimiser ce problème, Hervé Gaucho?
Oui, moi je crois que Louis Gallois a raison, effectivement, de le dire. Je ne sais pas si c'est une politique du chiffre ou si, pour complaire au président de la République, on essaie de casser le thermomètre, hein, ce mauvais jeu de mots. Mais enfin, juste pour rebondir sur la polémique autour de Julien de Normandie, puisqu'il a voulu apporter un éclaircissement, il se trouve que donc... sur les 50 personnes à qui on aurait dit non en début de soirée au 115, on a le témoignage du SAMU social parisien qui lui rapporte une journée de début septembre où ils ont dit non à 988 personnes. Alors peut-être que lui, il a pris l'exemple d'une très belle journée où il y avait très très peu de monde dehors.
Mais enfin,
honnêtement, c'est pas sérieux, quoi.
Oui, ça pose un problème quand même sur la précision des chiffres, François.
C'est pas sérieux. Bah,
évidemment, mais de toute façon, l'usage des chiffres dans le débat public, des associations comme Pénombre de statisticiens mettent en garde contre l'usage abusif des chiffres. Mais la question n'est pas là. Si ce chiffre a été avancé, c'est qu'il portait une intention. Une intention qu'on peut décrire de la manière suivante. Le formidable lissage face à la réalité des sans-abri en France. Et le chiffre a été avancé simplement pour signifier que c'était peut-être pas si grave que ça. Ben si, hélas, c'est grave et il faut s'en préoccuper. Et c'est le sens de l'intervention de Louis Gallois. Et il a raison d'intervenir aussi lourdement et aussi longuement sur cette question. C'est pas une polémique de chiffres. C'est un ripollinage de la réalité qu'il faut parfois combattre.
Pour en finir avec les chiffres, parce qu'après, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les SDF et la manière avec laquelle on s'en occupe en France. Au dernier comptage de l'INSEE, en 2012, il y avait 143 000 SDF. On sait, d'après la Fondation Abbé Pierre, que le nombre de SDF a augmenté d'environ 50% en 10 ans. Donc on est bien au-delà de 150 000 SDF aujourd'hui en France.
Alexandre Devecchio.
Oui, allons au fond des choses. Je pense qu'il y a un espèce de réflexe de techno et c'est un vrai problème pour le gouvernement. Et les chiffres, c'est bien, mais les tripes et les idées, c'est bien aussi. Voire c'est mieux. Je crois effectivement que ça interroge quand même. Il suffit d'avoir des yeux. On voit qu'il y en a de plus en plus. Je ne comprends pas que dans une société aussi riche, malgré tout, la France, l'Europe, ce sont des pays riches où on aide des gens comme ça à la rue. C'est pas tolérable. Et je crois qu'il y a aussi un problème de répartition des richesses sur laquelle il va falloir se pencher.
Virginie Leguet.
Oui, les chiffres, effectivement, le dernier sondage en recense 143 000. Dans la seule ville de Paris, les chiffres aussi entre 3 000 et 7 000. Moi, j'ai été très frappée non seulement par les déclarations de Julien de Normandie, mais par les déclarations précédentes du député Sylvain Maillard de LREM qui dit « Ah, mais ceux qui dorment dans la rue, c'est qu'ils le veulent bien. »
Donc là, il y a quelque... Parfois, il dit exactement. Oui,
oui c'est ça. Là, il y a quelque chose d'infiniment méprisant, je trouve. Et d'absolument contraire à la réalité.
On va poursuivre ce débat dans un instant. D'abord, toute l'info à 20h40 sur France Info avec Noémie Bonin.
Une jeune femme de 19 ans a donc offert à la France sa première médaille olympique. Perrine Lafaut monte sur la plus haute marche du podium aujourd'hui en ski de bosse. Martin Fourcade, en revanche, devra attendre demain pour peut-être décrocher une médaille en biathlon. Aujourd'hui, il a raté sa course. Demain, on aura aussi la championne du monde tricolore Tessa Worley sur le slalom géant. Angela Merkel promet d'aller jusqu'au bout de son mandat de 4 ans malgré les critiques. « Je fais partie des gens qui respectent la parole donnée », affirme la chancelière allemande ce soir, alors que plusieurs responsables de son propre camp l'invitent à préparer sa succession. Airbus sabre le champagne. L'avionneur vient de conclure un accord avec la compagnie aérienne Emirates pour confirmer l'achat de 20 avions A380. Le Premier ministre Édouard Philippe a supervisé la signature pendant sa visite à Dubaï. Israël va boycotter l'ouverture du festival de cinéma israélien de Paris en mars prochain. En cause, la diffusion du film controversé Foxtrot. Il salit l'image de l'armée, affirme le gouvernement israélien. L'ambassade d'Israël en France explique avoir suggéré de choisir un autre film, mais sans succès, et ne sera donc pas présente à l'inauguration. Et puis on retrouvera les filles de l'équipe de France de tennis en avril prochain pour les demi-finales de la Fed Cup. Elles se sont qualifiées ce soir grâce à Kristina Mladenovic et Amandine Hess en double face à la Belgique.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Carr.
Les informés de France Info ce soir, Virginie Leguet de Paris Match, Hervé Gauthier de France Télévisions, Alexandre Devecchio du Figaro et François Ehrenwein de La Croix ont parlé des sans-abri en France et de la façon un peu particulière pour le gouvernement de les compter. Je vous avais coupé Virginie Leguet sur cette question
autre,
des chiffres.
Il y a un autre chiffre que, avec lequel Julien de Normandie semble avoir beaucoup de mal. Il a été interrogé sur les effets de la circulaire Collomb et le nombre de personnes qui ont été interrogées dans les centres d'hébergement suite à la circulaire Collomb de décembre. Et il a dit 4 500. Et puis finalement, c'est pas 4 500, c'est 50, 10. Et en plus, les entretiens sont des entretiens spontanés qui ont eu lieu. Les 4 500, c'est ceux qui ont eu les entretiens normaux qui arrivent dans notre pays et qui ont des entretiens normaux avec ceux qui les reçoivent. Mais ça n'a rien à voir avec les entretiens auxquels les sans-abri, enfin ceux qui vont dans les centres d'hébergement seraient soumis, j'allais dire de façon contrainte par la circulaire Collomb. Donc là aussi, il y a un mélange de chiffres et de genres qui laisse un peu rêveur.
François Ehrenwein.
Moi, ce qui me frappe dans ce débat, et c'est l'effet des chiffres avancés par Julien de Normandie, tout le monde est allé interroger le SAMU social pour savoir comment ça se passait. Et le témoignage qui remonte, c'est le manque de moyens pour accueillir les sans-abri. Et cette question, on a raison de la poser au gouvernement, mais c'est une raison qu'on peut poser, c'est une question qu'on peut poser à l'ensemble des Français. Qu'êtes-vous prêt à faire si ces situations vous indignent? Comment voulez-vous vous engager? Êtes-vous prêt à payer plus d'impôts pour que cette solidarité s'organise? Ce débat, il faut le mettre sur la table. Je considère que c'est proprement intolérable la situation qui se développe actuellement en France.
Hervé Gauthier.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec François. Et alors, c'est vrai parce qu'il faut quand même parler des choses qui ont été faites. Hein. Le nombre d'hébergements d'urgence a augmenté cette année. Puis il y a le fameux plan logement avec les 40 000 logements très sociaux qui sont dans les tuyaux. Mais pour l'instant, on a juste une enveloppe de 10 millions d'euros qui a été dégagée pour quelques sites pilotes. Mais il y a des pays en Europe, comme la Finlande par exemple, où ils ont résolu le problème. Mais ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Pendant 8 ans, ils ont mis 240 millions d'euros sur la table pour créer des logements, pour créer des systèmes d'accession pour les SDF, et ils ont divisé par 3 le nombre de SDF. Alors, c'est sûr, hein, c'est un pays qui est beaucoup plus petit que le nôtre, donc 240 millions d'euros, pour nous, ce serait beaucoup, beaucoup plus d'argent que ça, mais il y a une réelle volonté politique, et quand on parle d'une volonté politique, c'est pas une volonté de l'État, ou du chef de l'État, ou du gouvernement, c'est une volonté des Finlandais de dire... Ça ne peut pas durer, on ne peut pas continuer d'avoir des SDF dans la rue. Est-ce que nous, en France, nous sommes capables d'avoir la même volonté de dire on ne supporte plus ça et, comme dit François, jusqu'où sommes-nous prêts à aller?
Quand le gouvernement, par la voix de Julien de Normandie, encore dit que aucun gouvernement n'a jamais ouvert autant de places d'hébergement d'urgence en France, est-ce que ça vous semble plus proche de la réalité?
Non mais Hervé vient de le dire, un effort a été fait, mais...
Plus 13 000 depuis le 1er novembre, je crois.
La valeur d'un effort se mesure à l'ampleur du problème. C'est-à-dire, si après un effort, on n'obtient pas des résultats satisfaisants, ça signifie qu'il faut faire un effort supplémentaire.
Alexandre Devecchio.
Oui, je pense que c'est une vaste réflexion qui s'inscrit aussi sur l'équilibre des territoires. On est dans un phénomène de métropolisation où il est quasiment impossible de se loger aujourd'hui à Paris sans avoir des garants riches, sans avoir un système de caution incroyable. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la question du logement, mais plus largement à l'organisation des territoires avec une France
périphérique. C'est un des axes du gouvernement d'ailleurs, ce plan
logement. Une
France
périphérique qui est totalement coupée aujourd'hui la France des grandes métropoles qui vivent de plus en plus dans l'entre-soi. Donc ça, c'est une réflexion à long terme. Après, si on veut faire preuve de volontarisme, il y a la question par exemple du service civique et national. On pourrait imaginer un service civique où des jeunes feraient du marronnage et où on rouvrirait, on sait qu'il y a beaucoup de casernes désaffectées, des choses comme ça. Je pense que l'État a les moyens de résoudre le problème à court terme et ensuite, il faut qu'il l'engage une réflexion profonde sur les équilibres territoriaux pour éviter la partition. Alors, ça peut paraître loin, mais la Corse, c'est aussi la France périphérique et aussi c'est cette question-là qui est sous-jacente.
Le gouvernement manque de volontarisme sur cette question, Hervé Gauthier ?
C'est un peu tôt pour le dire. Puis de toute façon, le problème, il date pas d'hier. Hein, donc on peut pas les accuser de ça. Mais je pense que ce dont on peut les accuser, c'est d'interpréter la parole présidentielle disant « je ne veux plus de SDF ». Et d'un seul coup de dire bon ben on va faire comme s'il y en avait plus, un peu comme quand on essayait de trafiquer les chiffres du chômage.
Mais est-ce que c'était une erreur d'ailleurs cette promesse?
En revanche, je voudrais juste rebondir sur ce que disait Alexandre. Effectivement, on a de plus en plus de gens qui sont dans les villes et on a plus en plus de gens qui sont aussi qui sont des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'ils travaillent et quand ils ont fini de travailler, ils vont dormir dans la rue. En Finlande, j'y reviens, comment ils ont résolu le problème ? Ils ont fait du dur, ils n'ont pas fait de l'hébergement d'urgence, ils ont mis les gens véritablement dans des logements, ce qui fait que ces gens ont retrouvé une vie normale, ils ont retrouvé une activité normale et d'un seul coup, ils sont sortis de la spirale de la rue. Ils ont fait du long terme tout de suite. Ils ont fait du long terme tout de suite.
Non mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une question de politique publique. Il faut arrêter de considérer que ces questions peuvent être correctement gérées par l'engagement formidable des associations. Ce travail-là pallie l'urgence, mais ne règle pas le problème. Quand a été votée la grande loi contre les exclusions, dans les années 90, 98 précisément, la question était centrée sur l'accès au logement. Mais cette loi a maintenant 20 ans, si je ne me trompe pas, oui, a 20 ça, ans... Hein. À 20 ans, et on est encore une fois devant des problèmes de grande ampleur.
Le droit opposable au logement, aujourd'hui, ça ne marche pas.
Mais il ne faut pas minorer l'engagement des associations, de tous ces gens qui se mouillent, qui vont sur le terrain pour aider les SDF, mais il ne faut pas considérer, je pense que c'est en creux,
pas se reposer
un
sur
peu
elle.
Le point de vue du gouvernement... L'associatif y pourvoira. Ben non, il faut des politiques publiques.
C'est vrai que c'est une grande habitude française.
Et vous pensez que les phrases qu'on a entendues dans la voix de Julien de Normandie ou d'autres députés, c'était vraiment une volonté de tordre un peu les chiffres pour faire...
C'est une volonté de lissage. C'est une prise de distance avec le réel. La société telle qu'elle est.
Je pense que c'est
à tout le moins une désinvolture extrêmement coupable.
Je pense que c'est des gens qui n'ont jamais été dans un centre d'hébergement d'urgence. Mmh. Moi, j'y suis allé beaucoup dans le cadre de mon métier, hélas. Et alors, évidemment, vous avez la visite du préfet dans la journée où tout est bien au carré, tout est tout propre, etc. Mais aller dans un centre d'hébergement d'urgence en pleine nuit, et vous allez comprendre pourquoi, effectivement, certains SDF ne veulent pas y aller. Et c'est pas qu'ils veulent pas y aller parce que ils sont mieux sous la tente dehors. C'est qu'ils veulent pas y aller parce que c'est difficile, parce que même dans un centre d'hébergement d'urgence, on peut se faire voler, on peut pas y venir avec son chien, on peut pas... On doit laisser sa tente dehors au risque de se la faire voler. Voilà, c'est des conditions de vie dont les gens dont on parle, on va pas focaliser sur Julien de Normandie, le pauvre,
mais
ce sont des gens qui n'ont pas le consentement du début d'une idée de la situation réelle de ces gens-là.
Comme sur d'autres sujets, c'est le symptôme absolu d'une coupure entre une certaine élite et effectivement les réalités du pays. Le nouveau monde macroniste est une fiction.
On va passer...
Pas plus que ceux des mondes précédents.
Pas plus que ceux des mondes précédents.
On a vu beaucoup de fiction ces dernières années.
Je suis d'accord.
Allez, on termine ce débat sur les sans-abri. En France, on va parler de la Corée dans un instant. Mais d'abord, à 20h50, l'essentiel de l'info de ce dimanche soir avec Noémie Bonin.
Un drame en montagne cet après-midi dans le Puy-de-Dôme. Un jeune skieur de 22 ans s'est tué. Il a percuté une barrière en bois en bas d'une piste verte dans le massif du Sancy, selon les informations de France Bleu sur place. Quelques débris éparpillés dans une grande plaine recouverte de neige. C'est l'image ce soir en Russie après l'accident d'avion à la mi-journée. Il s'est écrasé quelques minutes seulement après le décollage à Moscou. Les 71 personnes à bord sont mortes. Des témoins ont vu l'appareil s'enflammer dans le ciel. On ne connaît pas encore les causes du crash. Ça ne passe toujours pas pour les rugbymen tricolores. Nouvelle défaite ce soir face à l'Écosse, 32-26 dans le tournoi Destination. Ça s'est joué comme le week-end dernier sur le fil en fin de match. En foot, Nantes a mené deux fois au score contre Lille, mais termine finalement sur un match nul de partout. Tout à l'heure, Strasbourg s'est imposé dans la douleur face à 3-1. Dans 10 minutes, début du match entre Lyon et Rennes. Et puis la folie des grandeurs, toujours de mise à Dubaï. L'Émirat annonce aujourd'hui l'ouverture de l'hôtel le plus haut du monde. Il culmine à 356 mètres. Les premiers clients sont attendus dès demain.
France Info. 20h, 21h, les informés, Aurélien Carr.
Les informés de France Info, ce soir, Virginie Leguet de Paris Match, Hervé Gauthier de France Télévisions, Alexandre Devecchio du Figaro, François Ehrenwein de La Croix. Allez, dernier débat dans les informés ce soir. On parle déjà et peut-être un peu hâtivement des Jeux de la paix pour qualifier les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud. En tout cas, le rapprochement apparaît spectaculaire tout de même entre les deux Corées, officiels nord-coréens en tribune et en visite au Sud, une première depuis la fin des combats quand même, de la fin de la guerre entre les deux Corées, c'était en 1953, ça nous amène très loin. Équipe de hockey féminine avec des joueuses sud et nord-coréennes et invitation lancée par le leader nord-coréen au président du Sud à se rendre à Pyongyang. Je rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on en était quand même à comparer la taille du bouton nucléaire sur le bureau de Donald Trump et de Kim Jong-un. Est-ce que vous vous attendiez à un tel rapprochement, François Ehrenwein?
Ben non, c'est incontestablement un réchauffement qui surprend. Mais c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de tentatives qui n'ont pas été couronnées de succès. Là, c'est les dirigeants nord-coréens globalement et leurs chefs pratiquent un double discours, c'est-à-dire une ouverture pour faire baisser la menace. Et puis la fermeture, quand ça commence à chauffer. Et on vivra encore des années sur ce double registre. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas demain que les Corées seront réunifiées, ça me paraît pas tout à fait crédible. D'autant plus que Donald Trump ne contribue pas à arranger les choses.
Alexandre Devecchio.
Alors, oui, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais, sur Donald Trump, très honnêtement, je ne sais pas si ça a un rapport, mais on s'est beaucoup moqué de sa diplomatie, que ce soit sur la question de la reconnaissance de Jérusalem, où on a expliqué qu'il allait embraser tout le Moyen-Orient. On voit qu'il est suivi par d'autres chancelleries. Ou sur cette question-là, où effectivement, on a ironisé sur la taille des boutons nucléaires. On voit que, voilà, sur les deux questions, les lignes bougent. Je ne sais pas si ça a un rapport direct, mais il y a quand même un certain nombre de commentateurs qui, encore une fois, se sont peut-être trompés sur Donald Trump. En tout cas, il ne nous a ni conduit vers l'embrasement du Moyen-Orient, ni vers la guerre nucléaire avec la Corée.
Hervé Gauthier, Donald Trump, d'ailleurs, on ne l'entend pas beaucoup depuis le début des Jeux sur la Corée.
Non. D'ailleurs, enfin, les représentants américains sur place
Ils évitent les Nord-Coréens.
Bien sûr. Hein. Mais oui, parce que on parle d'un rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. D'abord, effectivement, ce n'est pas la première tentative et ce sera sans doute pas la dernière. Mais la Corée du Nord n'a pas tant un problème avec la Corée du Sud qu'avec les États-Unis. Voilà, l'assurance-vie de la Corée du Nord, c'est son programme nucléaire, et l'assurance-vie de la Corée du Sud, c'est ses bonnes relations avec les États-Unis. Voilà. Donc il y a eu un gros défilé militaire à Pyongyang juste avant les Jeux Olympiques. Il y a des manœuvres militaires conjointes qui sont prévues entre la Corée du Sud et les États-Unis juste après les Paralympiques. Donc voilà, je pense que c'est très bien de se retrouver comme ça d'un point de vue sportif, mais je pense pas qu'ils vont renoncer à leur arsenal nucléaire pour autant, ni les Américains à leur mauvaise relation avec la Corée du Nord pour autant non plus.
Virginie Leguet, est-ce que ce rapprochement peut être durable entre les deux Corées, ou est-ce que c'est vraiment, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, l'idée pour le Nord de faire de belles photos?
C'est vrai qu'elle est jolie, l'image de l'équipe unifiée de hockey sur glace féminine qui joue contre la Suisse. C'est joli.
Elle a perdu 8-0 quand même.
Mais c'est une image. Et quand on se souvient de l'histoire, il y a déjà eu un sommet historique en 2000 qui a donné lieu à la création d'une voie de circulation, d'une zone industrielle, d'accord. Et il y a eu des rencontres innombrables entre 2000 et 2007. Je crois plus d'une dizaine. En 2007, on a remis ça en disant que les choses allaient repartir du bon pied. À tous les Jeux Olympiques quasiment précédents, il y a déjà eu des rapprochements. Donc là, on nous refait le jeu du rapprochement. Mais on nous refait le jeu du rapprochement parce que ce sont les Jeux Olympiques. Mais on voit bien que derrière, les intérêts politiques et économiques des deux Corées sont totalement divergents. Et je ne vois pas ce qui les rapprocherait plus aujourd'hui que hier ou que demain. Moi.
François Denval.
Franchement, je suis
d'accord
pas du tout
avec Virginie,
optimiste.
C'est formidablement sympathique.
Oui, c'est joli.
Mais ça serait dangereux de croire que c'est durable. Et Hervé l'a dit tout à l'heure. Au fond, la Corée du Sud est coincée entre la Corée du Nord et les États-Unis, et c'est pas très facile d'avancer quand on est dans un étau pareil.
Et puis ils ont un peu le mauvais rôle, ça leur ferait mal s'ils étaient un peu réticents aux gestes d'ouverture qui leur sont envoyés. Est-ce que la Corée du Nord est poussée dans ce sens-là par la Chine, par exemple ? Ou est-ce que non, c'est vraiment elle qui est aux manettes, là?
Je pense que la Chine a parfaitement intérêt à calmer le jeu. D'ailleurs, elle fait ce qu'elle peut pour, mais le contrôle n'est pas total. Mais je pense que la Chine est l'agent actif pour refroidir le front en Corée, oui, je crois.
On voit que la position française, par contre, ça reste d'attendre mieux sur le dossier nucléaire, Alexandre Devecchio.
Oui, en réalité, enfin, je pense qu'on en a effectivement pour des années et que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je suis pas sûr que le mieux vienne. Il faut rester vigilant. Je suis pas sûr non plus que la Corée du Nord ait intérêt à aller jusqu'au bout. Mais effectivement, on en a pour longtemps avec cette Corée du Nord. Et il n'y a pas moyen, je crois pas du tout, à l'intervention militaire. Ce serait une catastrophe. Donc pour l'instant, on en est au statu quo et ça risque de rester des décennies encore comme ça.
François Danvain.
La Corée du Nord continue son chantage, la menace militaire contre de l'aide. Sa diplomatie s'est construite pendant plusieurs décennies comme ça, et les choses continuent.
Personne n'est dupe, en fait, du coup, si je comprends.
Non, je pense pas. Les gens qui suivent le dossier voient très bien ce qui se passe.
Mais on peut pas, oui, on peut pas d'un côté faire des offres de conciliation et de l'autre côté poursuivre son programme nucléaire et multiplier les invectives à l'égard de Washington. Il y a quelque chose qui ne marchera pas, qui ne marche pas.
C'est déjà la fin des informés. Merci beaucoup à nos invités. Ce soir, Virginie Le Guay, journaliste à Paris Match, Hervé Gauthier de France Télévisions, Alexandre Devecchio du Figaro, François Ehrenwein du journal La Croix. Merci à tous. Merci à vous qui nous regardez, qui nous écoutez pour votre fidélité à France Info. Les informés reviennent demain. Ce sera à 20h avec Jean-Mathieu Pernin. Bonne soirée à tous.